I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Steven, arrête s'il te plaît, j'ai jamais pu encadrer Michel Legrand.
Salut Cénociné, votre rendez-vous avec le cinéma qui sait au fond de lui pourquoi il a choisi de s'user la santé et surtout les yeux à visionner des heures et des heures de métrages de qualité diverses. Le but, le seul, c'est celui que décrivent tous les toxicomanes, retrouver l'envolée du premier fixe, du premier shoot, du frisson initial, et ce quel que soit le genre de film proposé, le premier éclaté en comédie, la première larme écrasée face au drame et évidemment la première descente du trouillomètre à zéro devant un film d'horreur comme on les affectionne tant. Cette frousse des origines, c'est ce qui nous pousse à retourner sans cesse en salle et c'est notamment ce qui nous fait guetter des projets aussi bien marqués était que Us de Jordan Peele, dont on va causer avec un duo que rien ni personne n'effraie. David Honora, salut David.
Salut Thomas.
Et Perrine Quenson, salut Perrine.
Salut Thomas.
C'est nos ciné épisode 182 et c'est parti.
Tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou. Enfin, si ça te plaît.
Us donc nous emmène sur les pas de la famille Wilson, envirée dans leur maison de vacances californienne dans la ville natale de Madame Wilson, incarnée par Lupita Nyong'o, des vacances qui vont vite partir complètement en cacahuète, les bizarreries s'accumulant pour aller jusqu'à l'apothéose du craignos, avec l'irruption dans leur vie de quatre personnages leur ressemblant étrangement, et pour cause ce sont leurs doubles.
What are you people?
It's us.
They look exactly like us. They think like us. They know where we are. We need to move and keep moving. They won't stop until they kill us. And we kill them.
Derrière la caméra, on l'a dit, ça fait peur, hein. C'est Jordan Peele, réalisateur du très remarqué Get Out, dont on avait parlé à l'époque. Et aux côtés de Lupita Nyong'o, on trouve au casting Winston Duke, Shadi Wright Joseph, Evan Alex, mais aussi Elizabeth Moss et Tim Heidecker. Votre avis sur Us, les amis? Perrine Quenson, tiens, ah oui, il fait pas cette tête, mais Julien Dupuis n'est pas là.
C'est, bon,
ça
y a
tombe un... sur toi, voilà, c'est comme ça.
D'accord, il y a une hiérarchie de vie qui commence.
Pas du tout,
d'accord.
Non, pour le coup, c'est Julien en premier et après les, tous les autres.
Comme Julien n'est pas là, j'avais une citation de Julien pour commencer. Pour
c'est vrai.
Comme si il commençait.
C'était quoi?
Parce que en fait, alors, je crois que nous, on a tous les deux plutôt aimé le film et lui plutôt pas. Et il disait que si Get Out était le sixième sens, sixième sens pour Jordan Peele, là, on serait plutôt sur Phénomène.
Ah oui, c'est vrai, il avait dit ça.
Donc c'est
pas mal. C'est
et le pire, c'est que moi, j'ai aimé, mais je suis pas totalement en désaccord avec cette comparaison. mais du coup, Perrine peut partir un peu
mon Dieu.
Oh, la violence
ouais,
de cette phrase.
La violence de cette phrase, c'est très, très dur. Perrine, donc.
Oui, donc c'est vrai que c'était très attendu, parce que Get Out avait été un tel phénomène au moment de sa sortie. Donc, on attendait tous la nouvelle. Qu'est-ce que peut faire après Jordan Peele, quoi. C'est-à-dire, il y a toujours ce phénomène de quand on a une grosse réussite, surtout pour un premier film, assez inattendu, surtout dans le cas de Jordan Peele, on attendait plus dans la comédie, ce genre
oui,
de choses, il avait complètement surpris son monde. Donc qu'est-ce qu'il va faire de plus? Comment il continue? On lui prête déjà aussi l'idée d'être la tête de gondole de l'horreur noire, c'est comme ça qu'on l'appelle, peut-être un nouveau mouvement potentiellement de cinéma. Et c'est vrai que je trouve que c'est beaucoup de pression à mettre sur une seule et même personne et sur un seul et même film en fait. Et le résultat, ça crée malgré soi une énorme attente qui, il faut le dire, est légèrement déçue. Légèrement déçu. Après, tu as déjà fait le résumé en soi. Si on devait dire que le film, c'est une sorte de vrai home invasion, quoi. Là, on quitte vraiment l'idée de Get Out et on est dans la pure home invasion et surtout on quitte le cinéma un petit peu communautaire qu'on aurait bien voulu lui prêter aussi, à un moment de dire faire que du cinéma sur la communauté noire. Non, il quitte ça aussi. Il va parler un petit peu d'autre chose. Il va parler. Et c'est presque là où c'est le plus dur, c'est d'essayer d'interpréter ce film, en fait. Oui. D'essayer d'interpréter ce film, d'essayer de le comprendre complètement parce qu'on peut lui prêter beaucoup de choses. Le film démarre sur une espèce de citation, enfin un carton où c'est écrit que il y a des tonnes de tunnels, enfin il y a des milliers et des milliers de kilomètres de tunnels aux États-Unis. Et que, enfin, je sais plus ce qu'il dit sur les tunnels, mais il y a plein de tunnels, quoi, dans les États-Unis. Et c'est vrai que si on regarde des reportages, souvent les zones interdites et les trucs comme ça sur M6, on a déjà entendu parler de ces tunnels-là, notamment à Las Vegas ou à Los Angeles, qui sont habités, en fait, par oui. des gens. Il y a une sorte de ville sous la ville, en fait, qui existe. Et on reprend un peu ce prémisse-là, en fait, d'une certaine façon, l'idée de potentiellement, est-ce qu'il y aurait un autre monde en dessous d'une autre ? Est-ce qu'il y aurait ouais. quelque chose qui existerait ouais. au-delà de nous, en dehors de nous, de ce qu'on peut voir à l'extérieur ? Et il va jouer un petit peu de potentiellement de ce jeu-là. Ça peut être une piste d'interprétation. Ça peut être aussi l'idée de... Parce que tu as parlé de double. Il y a il s'est dit dans la bande-annonce, on l'a entendu, c'est nous. C'est it's us, ouais. c'est nous. L'idée, est-ce que nos négatifs à nous, ceux qu'on refoule, ceux qu'on n'accepte pas, s'ils venaient nous envahir, qu'est-ce que ça ferait, en fait ? Qu'est-ce que tout ce qu'on n'accepte pas de nous-mêmes, qu'est-ce qu'on refuse, était devant nous ? Comment on le combat ? Est-ce qu'on le laisse prendre notre place, est-ce que, enfin, et je trouve qu'en fait à ce niveau-là, encore une fois, Jordan Peele il excelle quoi, il excelle vraiment. Là où le vrai problème du film, moi je vais l'évacuer tout de suite parce que comme ça au moins je suis débarrassée, mais pour moi le vrai problème du film c'est sa fin. Ouais. C'est sa fin que j'irai pas spoiler, mais qui est 100 fois trop explicative. Ça n'a aucun intérêt d'aller autant dans la précision, dans l'explication. Moi je pense qu'il faut garder encore un peu plus de mystère. Il pouvait largement entretenir, ce qui n'aurait rien enlevé. Au contraire, ça aurait tout donné au film. Il y a même deux choses qui arrivent à la fin. Elles s'annulent mutuellement. Je trouve que ça n'a aucun intérêt de faire ça. Donc, c'est vraiment dommage, parce que ça, c'est comme si genre, j'ai tout construit jusque-là. J'ai une mise en scène béton. Parce que, comme d'habitude, chez Jordan Peele, la mise en scène, c'est un maître mot. Il est hyper fort. Il arrive à créer une angoisse très très sincère, une angoisse qui est pas une angoisse évidente, c'est pas du jump scare, c'est pas Annabelle, c'est pas Insidious là qu'on est en train de regarder. C'est une angoisse qui est beaucoup plus profonde, qui est beaucoup plus qui vient chercher quelque chose de bien plus gênant en fait à l'intérieur de nous. Et je pense aussi que c'est pour ça que potentiellement le film marche moins bien ouais. que ces aux États-Unis du moins que ces films là, c'est parce que c'est moins évident comme horreur. Mais c'est vrai que d'un seul coup, bah à la fin arrive un petit peu genre bon bah je savais pas trop comment terminer, on m'a dit qu'on comprenait pas très bien donc j'ai rajouté ça quoi. Et ça sent le rajout, c'est un peu dommage, mais comme d'habitude chez lui, en plus il est aidé par un casting assez impressionnant, hein, Lupita Nyong'o, on la présente plus, mais c'est vrai qu'elle elle a, cette femme a une intensité dans le jeu, dans le regard, dans la voix que je trouve que Jordan Peele utilise à merveille, en tout cas dans Us.
David. Ouais, effectivement, Perrine a déjà dit pas mal de choses avec lesquelles je suis d'accord.
Ça me fait plaisir.
il s'appuie sur deux matrices du cinéma de genre. D'une part, le home invasion, qui est un sous-genre qui a été décliné de plein de manières différentes. Mais en gros, le concept, c'est que des gens ou une famille vont se retrouver attaqués chez eux par des intrus. Et en l'occurrence, la deuxième thématique, c'est celle du monde sous le monde, qui est aussi une thématique de science-fiction assez commune. D'ailleurs, on a reparlé, par exemple, très récemment dans Alita, où là, on est plutôt dans le monde d'en dessous. Et puis, on voit dans la SF qu'il y a un monde au-dessus des nantis. Là, en fait, on a la particularité d'une confrontation entre une famille et son double. Je trouve que ça permet de créer des situations qui sont assez intéressantes d'un point de vue, je dirais, frisson, parce que en fait, c'était déjà un des aspects intéressants de Get Out, ce qui n'est pas forcément de la peur, mais plutôt, et même pas forcément non plus de l'angoisse, mais plutôt du malaise. En fait, dans ces films, le malaise est proportionnel au confort qu'il instaure. Et en fait, les personnages qu'on suit sont des personnages qui sont dans un certain confort, dans quelque chose qui est déjà juste ils ont l'air de plutôt bien vivre leur vie, d'avoir une belle bagnole, même s'ils ont des amis qui sont plus riches qu'eux, ça va pour eux. Et donc il fait bon vivre en fait avec ces personnages, comme le couple de Get Out au début paraît plutôt équilibré et on a plutôt envie de se projeter dedans. Et en fait, ce confort auquel on s'identifie vachement se fissure avec ce qui se passe dans le film et comme on s'y est beaucoup identifié, se propage aussi sur nous. C'est-à-dire que on va remettre en question notre propre confort, ce qu'on considère chez nous comme acquis, etc. Et ça, je trouve que ça fonctionne très bien. Ça fonctionne aussi grâce à au-delà de pures idées de mise en scène et de la manière dont il construit son ambiance, aussi parfois des idées vraiment purement visuelles. Il y a notamment un plan, un moment où on voit toute la famille qui va s'installer en plongée, qui va s'installer sur la plage, et avec leurs ombres, ça dessine un truc super inquiétant sur le sable. Il y a des moments comme ça. Il y a tout un motif visuel qui part de la première scène de cette idée d'une association de coopération qui consiste à tous, si tout le monde se donnait la main dans le monde, ça irait
mieux.
Ça serait
chouette, hein.
Et en fait, ce motif est décliné de plein de manières dans le film et retourné comme un motif angoissant. Ouais. Et voilà, donc il y a pas mal d'idées. Moi ce que je trouve un peu dommage, c'est que l'ensemble est clairement moins bien tenu que Get Out, qui pour moi était une grande réussite, à la fois dans la manière de détourner, de se réapproprier certains codes du genre pour raconter à la fois l'histoire qui est racontée au premier degré et aussi véhiculer un sous-texte politique que je trouvais hyper puissant. Là on est plus dans une sorte de Boulga avec plein de choses, plein de motifs piqués un peu à droite à gauche, qui parfois sont assez captivants, parfois sont intéressants. Il y a un sous-texte politique
qui existe, mais qui est
à mon sens un peu vu et revu, ouais. Qui est vraiment sur une remise en question de l'Amérique dans ce qu'elle est et des laissés pour compte. Enfin, il y a tout un truc là-dessus qui est un questionnement politique qui est directement lié au genre du home invasion. En fait, c'est ça aussi, c'est ce que je disais sur le confort, c'est vraiment un truc qui est aussi vraiment typique du cinéma américain, parce que c'est une forme d'inquisition de la middle class bourgeoise américaine, ouais. Parfois élude toute la population qui peut souffrir. Et du coup, je trouve que il y a toute la mise en place du film hyper efficace, hyper réussie, notamment grâce aussi à la photo de Mike Giulakis qui a fait It Follows et les deux derniers Shyamalan.
On y revient,
tout est lié. Et en fait, il y a deux moments qui sont, à mon sens, problématiques dans le film. Il y a un premier moment, en fait, après le climax, qui est le moment où on se dit, bon, c'est bon, ils sont à l'abri, mais il reste 45 minutes de film, donc qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Et en fait, ce qui est dévoilé, déjà, est assez prévisible, et en plus, un petit peu, pas forcément très intéressant, et effectivement, il n'en tire pas quelque chose de très intéressant, je trouve. Et le dernier aspect, c'est ce dont parlait Perrine, c'est le sorte de twist final, qui est, alors là, pour le coup, je trouve hyper attendu, c'est quelque chose auquel tu penses depuis le début,
qui
ne fonctionne pas. C'est-à-dire, à mon sens, tu revois le film avec cet élément d'information, je ne dis pas que ce n'est pas possible, mais je trouve que ce n'est pas intéressant.
Moi, je trouve que ça serait intéressant, c'est horrible de parler de ça sans le dévoiler, mais moi, je trouve que ça serait intéressant s'il n'y avait eu que ça, s'il n'y avait pas eu la séquence d'explication avant, qui pour le coup n'a aucun intérêt, littéralement aucun intérêt en fait. Et c'est un peu le souci du film, c'est que presque Us paraît être un premier film par rapport à Get Out. Get Out paraissait tellement plus maîtrisé, et là on dirait qu'il y a une sorte d'urgence presque dans Us qui contraste avec d'ailleurs le début du film qui est plutôt au contraire terriblement maîtrisé, mais une urgence qui serait de l'ordre du gars qui fait son premier film et qui dit bon, alors c'est peut-être mon one shot. Je vais tout mettre dedans, les gars. Ouais. Je vais tout mettre. Ce qui fait que les prismes d'interprétation sont très très multiples. Et au fond, on se perd dans qu'est-ce qu'il a bien pu vouloir dire. Donc au bout d'un moment, finalement, on parle de nous plus que de parler du film. C'est ça qui est un petit peu étonnant. Mais il a aussi cet effet, j'ai envie de dire, un effet qui se coule pour ceux qui
se connaissent,
pour ceux qui ont vu la pub.
Voilà.
Effet qui se coule, qui est, moi, je l'ai eu le lendemain matin de la vision du film. C'est-à-dire que le film m'a fait un peu peur, tu vois, mais j'étais pas non plus dans la terreur absolue. Ouais. Mais c'est plus le matin en me réveillant où d'un seul coup, j'ai vraiment pris peur et pris conscience du film. En fait, j'ai pris conscience de cette trouille du home invasion que d'un seul coup, quelque quelque chose venait se fissurer en moi, comme l'a dit David, en fait. Et ça, c'est, j'ai adoré que le film, par contre, continue à travailler sérieusement à l'intérieur et qu'il ne soit pas aussi immédiat que ce que je m'attendais, en fait.
Oui, c'est vrai que le film pêche, en fait, quand il est trop explicite, parce qu'il y a des séquences, moi, que je trouve très réussies. Notamment, il y a une sorte de séquence de danse assez abstraite qui fait un parallèle, en fait, entre les deux mondes et que je trouve hyper bien.
Super bien.
Et selon moi, raconte déjà tout, en fait. On a déjà tout qui est dit là-dedans, par de la mise en scène, par vraiment un moment très émotionnel et voilà, qui fonctionne en tant que tel. Et après, moi, il y a un autre aspect qui m'a travaillé après le film, c'est justement d'essayer de le repositionner dans son environnement de référence dans l'histoire du cinéma. Et donc j'ai commencé à réfléchir aux autres formes d'home invasion comment je le placerais vis-à-vis de cela. Alors l'home invasion, c'est vraiment un genre qui a traversé l'histoire du cinéma. Il y en a eu de plein de manières. Il y a des films comme Le Chien de paille de Peckinpah, où on est vraiment, enfin, je pense qu'il y a peut-être un des plus proches de Us, dans le sens où c'est une remise en question de la famille de manière très violente et qui a à la fois vécu comme un film d'angoisse et aussi une sorte de charge politique contre le modèle de la famille. Mais après, en fait, et c'est là que je trouve aussi un truc intéressant dans le cinéma de Jordan Peele, c'est que comme on sait qu'il vient de la comédie et qu'il a toujours quand même un petit pas de recul sur sa manière de faire des films, on a des trucs qui peuvent être, enfin, le home invasion, ça peut aussi être Maman, j'ai raté l'avion, quoi. Il y a des films comme ça. Et d'ailleurs, je me souviens plus, il y a une référence, et les gamins disent, mais c'est quoi, ils connaissent pas, en fait.
C'est quoi une VHS et c'est quoi Home Alone, quoi. Et là, t'es genre, aïe. C'est vrai.
Salaud de gosse.
Et donc c'est marrant parce que tu positionnes le film dans un truc qui est extrêmement large, qui va il y a eu des ce que j'appellerais ça, des thrillers immobiliers, où on peut aussi rattacher que ça soit Panic Room ou Fenêtre sur Pacifique, c'est-à-dire c'est des films qui à la fois vont
immobiliers.
Non, mais en fait, qui disent des trucs sur la maison et le lieu. Et donc pour eux c'est leur maison de vacances. Et il y a tout un truc sur aussi l'architecture de la maison. Oui. Et il y a notamment un placard qui se ferme si on met pas un petit jouet pour bloquer la porte. Il y a des éléments comme ça, en fait, qui renvoient par exemple à Panic Room. Il y a vraiment tout un truc, un jeu de référence à reconstruire autour du film que je trouve pas mal. Et il y a aussi les personnages des envahisseurs, qui je trouve assez intéressant dans leur caractérisation, qui est très stylisée. Ils sont habillés un peu comme des prisonniers en tenue orange. Ils ont une grande paire de ciseaux bien flippantes, et ils ont toute leur caractérisation de personnage. J'étais d'accord sur ce que tu disais, Perrine, sur le fait qu'il en dévoile beaucoup trop et qu'il y a des moments où le film est trop explicite. En revanche, par rapport à ce qui est habituellement fait dans le genre, je trouve très intéressant la manière dont sont décrits les antagonistes.
Au départ, totalement.
Et en fait, on en sait beaucoup par rapport à ce qu'on en sait habituellement sur ces personnages dans les films. Et ça, je trouve ça pas mal.
Et en termes de référence, c'est vrai qu'on ne peut pas... le film ne s'en cache pas. On a parlé d'Home Alone, on a parlé de plein de trucs, mais on peut citer Haneke aussi, clairement, parce que là, on a du Funny Games qui est cité, mais ouvertement, en fait. Il y a même une séquence à coup de batte de baseball où là, on est clairement dans Funny Games. C'est exactement le même mouvement qui arrive. On ouvre la porte, on pète les genoux de quelqu'un, quoi. C'est littéralement le même mouvement que dans Funny Games. Donc, il est aussi dans l'hommage de ses maîtres. Il y a Kubrick. On peut citer vraiment beaucoup de choses, en fait. On pense à Shining, on pense dans plein de choses. Donc le c'est vrai que le
même Orange Mécanique d'ailleurs.
Orange Mécanique de ouf, évidemment, de ouf. Et non, mais c'est vrai que voilà, il est
Orange Mécanique de ouf, phrase jamais prononcée ailleurs que dans cette pièce.
Non, mais c'est vrai qu'il est et c'est vrai que tu parlais de l'humour, c'est marrant parce que j'avais un peu oublié et en fait là ça vient de revenir et c'est un peu pour moi la qualité et le défaut du film, c'est qu'il il est drôle. Il est très drôle, en fait. Et surtout, le personnage du père, Duke Wilson, si je ne dis pas de bêtises, Winston.
Winston Duke.
Mais Winston Duke, voilà, bah, c'était l'inverse. L'acteur qui était dans Black Panther, notamment. Mais qui tout le temps tourne tout à la dérision, en fait. Et ce qui, moi, me perturbait à plusieurs moments, parce que j'ai envie de dire, mais arrête, c'est pas drôle, en fait. Arrête, moi, ça ne me fait pas marrer.
On ne passe pas un bon moment.
Je ne passe pas du tout un bon moment à l'heure actuelle. Mais et à la fois, ça me permet d'être soulagée et en même temps j'ai m'empêché de m'inquiéter totalement pour ces personnages parce que tout était tourné un petit peu à la déconne quoi. Donc c'est vrai que voilà, le film a vraiment le cul entre deux chaises à plein de moments alors qu'en vérité il a tellement de qualités ultra fortes que c'est un petit peu dommage d'être plombé par ses défauts comme ça.
Et c'est vrai que le dosage de l'humour c'est vraiment un des points sur lequel Get Out était bien supérieur et il y a une scène qui fait se rendre compte de ça, c'est en fait un gag avec une sorte d'assistant audio dans une maison qui va lancer un morceau de musique. Et le gag, à ce moment du film, enfin, à mon sens, joue contre le film, quoi. C'est vraiment pas le moment dans la situation, en fait, de faire ce gag-là parce que il désamorce tout, quoi.
Ça tend à la farce, quoi.
Et dans Get Out, il y avait ce truc de faire porter la comédie sur un personnage qui n'était pas là où se passaient les choses et qui faisait qu'on pouvait avoir dans le montage un moment un comic relief, un moment où c'était plus léger, sans que ça vienne entacher l'atmosphère principale du film. Et ça, c'est un peu un écueil.
Pour terminer, chers camarades, on va faire comme toujours un petit tour de recommandations. On peut rester dans le monde de l'horreur, on n'est pas obligé. David
Moi, en fait, j'avais pas cité Haneke pendant l'émission parce que je le gardais pour
ma
retraite. Mais je ne voulais pas citer Funny Games. Alors, effectivement, on y pense clairement dans le film.
Amour,
je voulais pas citer Funny Games parce que j'aime pas du tout le film, ni encore moins son remake que je trouve complètement inutile. En fait, je trouve que c'est un film d'Haneke que j'aime pas trop parce que je le trouve trop véhément contre le cinéma. C'est un peu... Enfin, c'est une charge contre le cinéma américain et c'est une manière de montrer comment, lui peut très bien se jouer à ce petit jeu et que, en fait, je sais pas exactement en quel terme Haneke en parlerait, mais il doit penser que c'est fasciste, quoi. Enfin, et en revanche, je trouve qu'il a fait d'autres films qui sont pas autant des Home Invasion que Funny Games, qui l'est vraiment, enfin, c'est limite une sorte de définition, une analyse, une critique du genre. Et il y en a deux que je considère comme ses meilleurs films. Il y a un de ses premiers films, si ce n'est son premier film, Le Septième Continent, qui est vraiment sur le délitement d'une famille et qui peut être une forme de Home Invasion psychologique, quoi. À un moment donné, la famille craque toute seule, mais c'est aussi une forme d'allégorie. Et il y en a un autre, qui est un film plus récent, un film français d'Haneke, qui est Caché, avec Daniel Auteuil et Juliette Binoche, et qui est aussi, qui pourrait être rattaché au Home Invasion, parce que c'est une famille qui se... Enfin, l'argument de départ du film, c'est une famille qui trouve une cassette vidéo qui filme la façade de leur maison. Un couple qui trouve cette cassette vidéo, qui la filme pendant des heures et qui comprend pas pourquoi elle reçoit ces cassettes vidéo. Et c'est un film qui est très intéressant sur un aspect qui me semble aussi être un truc visé par Jordan Peele dans son cinéma en général, c'est tout le fond politique qu'il y a derrière. Et en fait, Caché, c'est un grand film sur l'enfouissement de la culpabilité, à la fois au sens individuel et aussi au sens d'un pays. Et c'est hyper réussi.
C'est marrant parce qu'on s'auto-cite dans nos commentaires, parce qu'en fait, moi, je je ne savais pas, je n'avais pas regardé pour être honnête, que le directeur de la photographie était le même sur It Follows. Et j'avais envie de citer It Follows, en fait, parce que, de David Robert Mitchell. Parce que j'ai eu exactement cette même sensation de double effet qui se coule sur les deux films. C'est-à-dire que, autant je trouve pour le coup It Follows plus maîtrisé en vrai, dans son entièreté, je veux dire, par rapport à... À Us, et c'est marrant parce que c'est aussi un deuxième film, hein, pour le coup, mais j'ai cette même sensation du lendemain matin avec le Home Invasion, parce que dans It Follows, à un moment donné, on rentre dans la maison vraiment de quelqu'un, et il y a cette entité qui marche là et qui change de forme, et qui à un moment prend la taille un type géant qui passe sous une porte, et ça m'avait, sur le moment, en regardant le film, ça m'avait pas fait grand chose, mais alors une fois que j'étais rentrée chez moi, que j'avais passé la nuit, j'ouvrais les yeux le matin, je me dis, il y a un truc qui va passer sous ma porte, et j'avais vraiment la trouille. Et en fait, d'un seul coup, toute cette idée de cette chose, parce qu'il n'y a pas de mots, il n'y a rien qui la définit, qui me poursuit, comme là on est poursuivi de manière presque robotique, hein, ils suivent jusqu'à n'en plus pouvoir de suivre, hein, dans le film, il y a cette même idée, et bien en fait ça continue à travailler vraiment, encore une fois il y a cette idée aussi de la culpabilité, ce truc qui continue de nous poursuivre même quand on le fuit, et je trouve que ces deux films ont cette même intelligence pour deux réalisateurs qui sont à peu près du en tout cas de la même génération, peut-être pas du même âge exactement, mais de la même génération, qui font des films relativement similaires tout en étant totalement différents, mais avec cette même ambiance qui n'est pas une peur aussi immédiate, et je trouve que c'est intéressant potentiellement de les mettre en lien, David Robert Mitchell et Jordan Peele.
Très bien, on va s'arrêter là-dessus, notre temps est écoulé, merci à tous les deux, merci à Solène à la technique, à Juliette pour la préparation, binge.audio pour toutes les infos utiles, on vous dit à très vite.
Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd.
Binge.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.